Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Rites et pratiques anciennes de l'alimentation. Dans cette nouvelle émission, nous avons déjà évoqué l'alimentation en Mésopotamie ancienne. Nous poursuivons maintenant pour cette deuxième partie sur les aliments dont se nourrissaient les Grecs. Alors, en ce qui concerne le pain, on a un petit tableau qui représente une femme pétrissant de la pâte à pain aux alentours de 475 avant Jésus-Christ. C'est un tableau que l'on trouve au Musée national archéologique d'Athènes. Alors, les céréales constituent la base de l'alimentation grecque. Il s'agit principalement de blé dur, d'épeautre et d'orge. Mondé par le trempage, le blé peut être transformé de deux manières principales. En gruau, il sera donc employé en bouillie, et moulu en farine et pétri, il sert à fabriquer du pain ou des galettes, simples ou mélangés à du fromage ou du miel. Le levain est connu à partir de l'époque romaine et les Grecs utilisaient un composé alcalin ou de la levure de vin comme agent levain. Les pâtons sont cuits à la maison dans un four à argile surélevé par des pieds. Une technique de cuisson plus rustique consiste à déposer des chardons ardents sur le sol en terre et de recouvrir le tas d'un couvercle en cloche. Quand le sol est suffisamment chaud, on pousse les charbons sur le côté, on dépose les pâtons et le couvercle et remis en place sous les charbons. Le four en pierre n'apparaît qu'à l'époque romaine. Alors, je fais une petite aparté. J'ai vu la façon de cuire, la méthode de cuire dans le désert de Syrie par des bédouins qui font cuire le pain dans le sol. Alors, c'est exactement le même principe. On creuse un trou, on met la pâte dedans, tant pis pour la terre qui s'y reste, mais c'est pas grave. Et on le fait cuire avec des chardons ardents qu'on a fait préparer avant. Une fois que c'est chaud, suffisamment chaud, on retire les chardons et on récupère le pain, on le brosse et on le mange. Et il est très, très bon. Alors, en ce qui concerne l'orge, il est bien sûr plus facile à produire. Peu panifiable, sa farine donne des pains nourrissants, mais très lourd. On grille l'orge et on le moue pour obtenir la farine qui servira de plat de base grec, surnommé les mangeurs d'orge. L'expression « ne manger que de l'orge » en français, ça veut dire « être au pain sec et à l'eau ». Alors, en ce qui concerne les légumes et les fruits, alors les céréales sont souvent servies avec un accompagnement appelé génériquement le mot. Tout ce qui se prépare sur le feu est par extension tout ce qui accompagne le pain. À partir de l'époque classique, il s'agit de poissons et de légumes. Alors le chou, l'oignon, lentilles, fèves, différentes espèces de vesses ou encore pois chiches. Ils sont servis en soupe, bouillis ou en purée, assaisonnés d'huile d'olive. Ce qu'on utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On les gardine vinaigre de garum, c'est-à-dire de la sauce de poisson proche du nok mam vietnamien et d'herbe. S'il faut en croire Aristophane, la purée est l'un des plats favoris d'Héraclès, toujours représenté comme un goinfre dans la comédie. Les plus pauvres consomment couramment des glands de chêne et les olives, soit crues ou confites, sont une garniture fréquente. Enfin, en ville, les légumes frais sont chers et peu consommés par le peuple. Les citadins peu fortunés se rabattent sur les légumes secs. La soupe de lentilles est le plat typique de l'ouvrier. Les rations militaires typiques contiennent de l'ail, des oignons et du fromage. En ce qui concerne les fruits, frais ou secs, ils sont dégustés en dessert. Ce sont principalement des figues. Les figues sèches sont également consommées en apéritif. La présence de figues carbonisées près des restes de raisins laisse supposer qu'elles ont servi d'adjuvant sucré pour camoufler l'amertume. Les grenades, les noix et les noisettes, hein, ce sont des desserts favoris. En ce qui concerne la viande, on le représente, cette partie de viande, par un jeune homme qui prépare une tête de cochon après le sacrifice. On voit les colonnes du temple à droite, le cratère en cloche du peintre de Tarpolef, visible avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 360-340 avant Jésus-Christ, et qui est au Musée archéologique national de Madrid. Il faut savoir une chose, hein, c'est que manger de la viande est une chose rare, sauf aux fêtes et aux autres banquets. La consommation de poissons et de viande varie suivant la fortune de la maisonnée, mais aussi son implantation. À la campagne, la chasse, principalement le piégeage pour les plus pauvres, permet de consommer du lièvre et des oiseaux. Les paysans possèdent également des basses-cours, les fournissant en poulet et en noix. Les propriétaires un peu plus aisés ou riches pratiquent un élevage d'appoint, de chèvres, porcs, moutons, et les chasseurs s'offrent le produit de leur prise, sangliers, cerfs. À la ville, par contre, les viandes sont chères, à l'exception de la viande de porc. À l'époque d'Aristophane, un cochon de lait coûte environ 3 drachmes. Alors, il faut savoir que le drachme est une unité monétaire grecque. Le drachme de la Grèce ancienne, largement utilisé dans le bassin méditerranéen, celui de la Grèce moderne, symbole GRD en majuscule, avant la circulation de l'euro en 2002, et le drachme, mot moyen perse dérivé du grec ancien, fut l'unité monétaire de l'Empire sassanide. Sa parité est égale à l'euro depuis 2002. La civilisation mycénienne pratiquait l'élevage de bovins pour leur viande. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, encore Hésiode décrit ainsi son idéal de festin campagnard. « Puissais-je avoir l'ombre d'une roche, du vin de Byblos, une galette bien gonflée et du lait de chèvre qui ne nourrissent plus avec la chair d'une génisse qui a pris sa pâture au bois et n'a pas encore vêlé ou d'agneau d'une première portée. » Vous comprendrez que c'est la reproduction littérale de ce qui est écrit à propos du festin campagnard. La viande est beaucoup moins mentionnée dans les textes de l'époque classique que dans la poésie archaïque. La consommation de viande a principalement lieu à l'occasion de sacrifices religieux résultant des festins. La part des dieux, c'est-à-dire la graisse, le fémur et les viscères, est brûlée alors que la part des hommes, la viande, est grillée et distribuée aux participants. La technique bouchère grecque du commerce florissant de viande cuite ou salée a ceci de particulier que l'animal n'est pas découpé suivant le type de morceau, mais en portions de poids égales. Chacune d'entre elles peut donc être composée presque entièrement de graisse ou d'os, ou au contraire seulement de viande, et mêlée morceaux à briser, rôtir, bouillir ou griller. Il y en aura qui ont des abats et d'autres qui ont vraiment la viande, qu'elle soit grillée ou rôtie ou brisée. Alors, un passage de comédie illustre les problèmes que la pratique suscite. Clairfond achetait un jour de la viande. Le boucher, dit-on, lui en copa par hasard un morceau très osseux. Il lui dit « Boucher ne compte pas l'os », ce à quoi ce dernier lui répondit « Mais la viande est tendre, on dit qu'elle l'est quand elle l'est près de l'os ». Et Clairfond de dire « Soit, cher ami, mais son poids supplémentaire me chagrine où qu'il se trouve ». J'ai l'impression d'être blousée un petit peu au niveau de la qualité. En Crète, par contre, les meilleures parts sont allouées aux citoyens particulièrement sages ou bons guerriers. Dans d'autres cités, comme Chéronée, les portions sont tirées au sort, ce qui donne à chacun une chance égale d'obtenir un bon ou un mauvais morceau. Quant aux Spartiates, ils se nourrissent principalement d'un ragoût de porc, le brouet noir. Plutarque indique que parmi les plats, celui qu'ils apprécient le plus est le brouet noir, au point que les vieux ne demandent même pas de viande, ils la laissent aux jeunes et font leur dîner du brouet qu'on leur verse. Il faut savoir que ce plat est composé de viande rôtie, de chèvre et de porc, de sel, de vinaigre et de sang, et se trouve complémenté de malza, de figues et de fromage, et parfois même de gibier ou de poisson. On va s'arrêter un petit peu, on va faire une petite pause, et on va reprendre après sur le poisson. Thank you. Alors, je reviens donc sur cette émission. On va parler du poisson. Après avoir parlé de la viande, du pain, etc., je vais vous parler du poisson, qui est l'un des plats préférés des Grecs. Plat à figues rouges, représentation d'un tableau de plat à figues rouges, vers 350-325 avant Jésus-Christ, qui se trouve exposé au musée du Louvre. L'attitude des Grecs face au poisson varie suivant l'époque et les dieux eux-mêmes. Les Grecs, bien sûr, ne mangent pas de poisson, mais des viandes rôties. Il semble que le poisson ait alors été perçu comme la nourriture des pauvres. Par contre, l'Odyssée évoque que les compagnons d'Ulysse mangeaient du poisson, mais uniquement parce qu'ils étaient affamés après être passés par Charybde et Scylla, et parce qu'ils devaient se nourrir de ce qui leur tombait sous la main. À l'époque classique, le poisson devient un mets de luxe, recherché par les plus fins gourmets, suscitant à l'époque hellénistique des traités spécialisés, entre autres celui de Lincée de Samos sur l'art d'acheter du poisson pour pas cher. Tous les poissons, bien sûr, ne se valent pas, et on en veut pour preuve une stèle de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, provenant de la petite cité béotienne d'Acraïfia, sur le lac Copaïs, qui fait état d'une liste de poissons et de leurs prix respectifs, probablement pour protéger les consommateurs des augmentations excessives. Le moins cher est le scarène, sans doute perroquet de mer, on suppose, tandis que la ventrèche de thon coûte 3 fois plus cher. Le poète Ériphos, dans sa pièce Mélibée, range les seiches avec la ventrèche du thon, la tête du loup et le congre au rang des mets dignes de Dieu, que les pauvres, bien sûr, ne peuvent pas s'offrir. Les convives du banquet mis en scène par Athénée au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ consacrent une grande partie de leur conversation à des considérations œnophiles et gastronomiques. Ils discutent des mérites comparés à de tels vins, légumes ou viandes, évoquent des plats renommés, sèches farcies, ventrèches de thon, écrevisses de mer, laitues, arrosées de vin ou de miel, et des grands cuisiniers tels que Sotérides, cuisinier du roi Nicomède Ier de Bithynie, 3e siècle avant Jésus-Christ. Chers auditeurs, voici l'heure de terminer cette narration concernant les rites et les pratiques de l'alimentation des anciennes civilisations. Là, aujourd'hui, on parlait de la Grèce. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour la suite de cette émission, au cours de laquelle nous évoquerons les boissons, les vins et les régimes spéciaux alimentaires grecs pour les athlètes, les diètes, le végétarisme et la diète des malades. Je vous souhaite de passer de belles journées et on se dit à bientôt dans le courant du mois prochain. Et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.